À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Retrouver la source intérieure », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Dans l'émission précédente, nous nous étions posé la question « Qu'est-ce que vivre de tout son être ? Qu'est-ce que la vie intérieure ?» Et aujourd'hui, je voudrais poursuivre cette question de la vie intérieure, où je vous disais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une très grande expérience spirituelle, d'appartenir à une religion, ni même de croire en Dieu pour avoir une vie intérieure, et où je propose un chemin de vie spirituelle où j'ai le souci de respecter l'incarnation, c'est-à-dire de prendre la personne dans toutes ses dimensions, parce que la tradition chrétienne nous enseigne qu'un chemin spirituel ne peut se vivre avec toutes les dimensions de notre être. Notre corps, notre psychisme et notre affectivité, notre intelligence, tout cela étant assumé par la vie spirituelle. Et si j'attache l'importance à toutes ces dimensions, c'est parce qu'en Occident, pendant trop longtemps, nous avons réduit la recherche, la réflexion, peut-être même l'intériorité, à de la rationalité. Particulièrement, nous savons en France que quand on dit que « je pense, donc je suis », ça ramène la profondeur et le mystère de l'homme à un travail rationnel où on essaye de décomposer les problèmes en les simplifiant le plus possible pour ensuite reconstruire les questions et revenir à une solution, en ayant l'impression que le jour où on a fait le tour de façon conceptuelle de toutes les questions, on a répondu, on a trouvé le sens. Or, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes sont obligés d'être confrontés à cette réalité qui est plus nous avançons dans notre recherche, plus les réponses s'éloignent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acquis fabuleux, mais les grandes questions restent ouvertes. Alors, en étant tellement attentifs à une démarche de type intellectuel, nous sommes exposés à perdre le contact avec notre ressenti, nos sensations quotidiennes. Souligner les limites d'une approche trop rationnelle de la réalité n'implique pas que je vous propose une démarche d'intériorité où l'intelligence n'aurait pas sa place. Nous verrons qu'il est important aussi de pratiquer le discernement et que dans un discernement, il y a aussi des éléments qui relèvent de l'intelligence, du jugement, d'une sagesse, mais aussi d'une intelligence du cœur. Donc nous allons essayer de comprendre, de relire, de nous approprier consciemment ce que nous recevrons sur un chemin d'intériorité. Mais il est important de rester critique sans vouloir tout réduire au pur rationnel, au matériel, au quantifiable dans la démarche humaine. Et en même temps ne pas s'emballer dans une approche de la vie humaine et de la vie spirituelle qui soit purement émotionnelle. Parfois on passe d'un extrême à l'autre. De ce matérialisme et de ce rationalisme occidental, on passe à un tout émotionnel. Plus c'était émotionnel, plus c'était touchant, plus on a pleuré, plus on a crié, plus c'était profond, plus c'était spirituel. Non. Notre tradition se situe entre les deux. Nous ne sommes ni dans l'irrationnel, ni dans le pur rationnel. Nous sommes dans un chemin spirituel qui mobilise toutes les dimensions de l'être en respectant et l'intelligence et le mystère. Nous avons des problèmes dans notre rapport au corps, parce que nous avons souvent fait de notre corps un instrument, un outil, Alors que lorsque nous voyons d'autres traditions, nous voyons que le corps est vraiment le lieu de l'expression, du contact. Si vous voyez comment un bébé est porté sur le dos de sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans en Afrique, avec tout ce que cela implique comme contact corporel, sensuel, affectif, olfactif, vous pouvez vous rendre compte à quel point la façon dont un Africain pourra percevoir son corps sera différente de celle de l'Européen qui aura été mis dans un berceau, qui aura parfois été très peu cajolé, dont les parents n'ont peut-être pas pu s'occuper comme ils auraient voulu, peut-être parce que tous les deux travaillent. Mais en tout cas, le rapport au corps est aussi quelque chose de culturel. Alors nous avons peut-être à redécouvrir cela. Personnellement, je crois qu'en Occident, nous avons à apprendre à respirer autrement, à ressentir notre corps autrement, à devenir attentif au mouvement de notre affectivité, à identifier nos sentiments pour en découvrir leur signification spirituelle. C'est toute une rééducation. Et une telle démarche est profondément spirituelle dans la mesure où la spiritualité est ce qui assume toutes les dimensions de notre être. Et si nous nous engageons dans une démarche comme celle-là, où le corps et l'affectivité sont pris en compte dans le chemin spirituel, nous pouvons nous ouvrir aussi à une présence qui s'exprime dans ce lieu-là, celui de notre cœur profond relié à toutes les dimensions de notre être. Et c'est ainsi que la source intérieure peut être retrouvée et libérée. Oui. Il existe en nous une source de vie que nous ignorons souvent, peut-être justement à la suite de cette perte de contact de notre intériorité avec notre intériorité, peut-être aussi parce que nous avons une éducation trop rationnelle, ou bien parce que les souffrances de la vie, les blessures, les difficultés rencontrées nous ont durcis, nous ont coupés de notre sensibilité. Nous connaissons l'expression « ça passe ou ça casse ». Combien de personnes se sont blindées dans leur sensibilité parce qu'il fallait que ça passe, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'être fragiles, parce qu'elles n'avaient pas le droit à l'erreur. Mais le prix, c'est que cette sensibilité finit par s'étioler et que la perception spirituelle aussi est atteinte. Cette source dont je vous parle, cette source de vie, cette source de sens, cette présence, eh bien, elle peut être obstruée. Un peu comme dans la montagne, à la suite d'un éboulement, une source peut être cachée, couverte de terre, de feuilles, au point qu'on ne voit même plus qu'il y a une veine qui passe par là. Elle attend que quelqu'un vienne pour la libérer, la redécouvrir. Quelqu'un qui soit attentif à la sensibilité du lieu, au vent qui s'humidifie, au murmure. Or, notre vie est parfois si aride. Le prophète Jérémie dit « Ils ont abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes qui ne tiennent pas l'eau. » Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de citernes lézardées autour de nous et tant de gens qui se dessèchent, ne sachant même pas qu'elles ont en elles-mêmes une source, qu'elles sont appelées à découvrir, à libérer. Et sans doute pour cela, ont-elles besoin d'être accompagnées? Cette image de la source est très ancienne dans le christianisme. Déjà, un auteur qui s'appelle Origène, au IIIe siècle, comparait la vie spirituelle à la recherche de la source. Et il faisait le lien entre la source et l'image de Dieu qui était inscrite dans nos profondeurs le jour de où nous avons été créés, le jour où nous sommes nés. Et voici ce qu'il dit. Le peuple meurt de soif, même en face des Écritures, jusqu'à ce que le Seigneur vienne les ouvrir. Il ouvre les puits et nous enseigne que le lieu où l'on doit chercher, c'est notre cœur. Voyez donc qu'il y a sans doute aussi dans chacune de nos âmes un puits d'eau vive, comme un certain sens céleste et une image de Dieu latente. C'est ce puits que les puissances adverses ont empli de terre. Les puissances adverses pouvant être toutes les épreuves négatives de notre vie. En toi est imprimée l'image du roi céleste. Lorsque Dieu, au début, fit l'homme, il le fit à son image et à sa ressemblance. Et cette image, il ne la plaça pas au dehors, mais au dedans. On ne pouvait pas la voir en toi tant que ta demeure était souillée, pleine d'immondices. Mais cette source était bien au fond de toi, mais elle ne pouvait sourdre. Tente donc, toi aussi, d'avoir ton propre puits et ta propre fontaine, pour que toi aussi, lorsque tu prendras le livre des Écritures, tu te mettes à tirer de ton propre fond quelque intelligence. Et Origène continue. Il y a en toi une nature d'eau vive. Il y a des veines intarissables et des courants d'irrigation. Les veines et les courants du sens raisonnable. Si toutefois ils ne sont pas obstrués de terre et de décombres. Mais emploie-toi à creuser ta terre et à la nettoyer des ordures. C'est-à-dire de repousser la paresse et à secouer la torpeur du cœur. Purifie donc, toi aussi, ton esprit, pour qu'un jour vienne où tu boiras de tes propres fontaines et où tu puiseras de l'eau vive dans tes puits. Car si tu as reçu de Jésus l'eau vive avec fidélité, en toi s'ouvrira une fontaine d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Voilà donc une parole qui nous montre que nous avons un travail à faire. Un travail de découverte de nous-mêmes. Un retour à nos profondeurs. Un travail de purification. Un travail de mémoire. Un chemin de libération. Nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons avec d'autres. Des personnes qui nous aident, qui nous aiment, qui nous accompagnent. Et surtout la force de l'esprit. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je voudrais évoquer cette source intérieure à laquelle Origène lui-même, un père de l'Église du IIIe siècle, faisait allusion en évoquant le visage de Dieu dans l'homme, disant que ce visage de Dieu a souvent été caché par tout ce qu'on a pu vivre comme épreuve, comme tentation, comme chute, et que nous avons à redécouvrir. Cette découverte, on peut la faire à travers d'autres expériences spirituelles que l'expérience chrétienne, certainement. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche aujourd'hui, certaines d'origine chrétienne qui s'engagent sur d'autres chemins, d'autres qui n'ont jamais été christianisées et qui se tournent vers d'autres traditions ou qui sont nées dans d'autres traditions. Je pense par exemple à ceux qui sont attirés par le bouddhisme. Bien, c'est là, à travers par exemple Zazen, l'expérience de l'assise zen, ou à travers la méditation dans la tradition tibétaine, vont s'ouvrir à une expérience qu'on va appeler expérience de vacuité. Alors, la vacuité, ce n'est pas le vide, mais c'est en fait une façon de trouver la distance juste, l'attitude juste par rapport à ce qui nous entoure. Pour les bouddhistes, il existe un chemin de libération pour les humains qui souffrent de l'illusion de croire que les choses existent de façon permanente et donc s'attachent aux choses et sont continuellement animés par cette tentation de posséder et de s'identifier avec ce qu'ils possèdent. Et les bouddhistes nous disent que tout est souffrance parce qu'à tout moment, ou bien nous essayons d'avoir ce que nous n'avons pas, ou nous regrettons ce que nous avons eu, ou nous n'arrivons pas à avoir l'attitude juste par rapport à ce qu'est à vivre dans l'instant. Il y a donc une frustration à dépasser, il y a une liberté à trouver, et il y a ce travail que l'on peut faire par la méditation. Pour l'hindouiste, il n'y a pas à opposer le corps et l'esprit, le créateur et la créature, tout est à la fois un et multiple, simple et complexe, et il nous parle de non-dualité, c'est-à-dire on ne peut pas opposer par exemple le corps et l'âme. La réalité est une réalité d'une richesse et d'une complexité que nous ne pouvons pas épuiser, que nous avons expérimenté, parce que tout est en interaction. Et pour eux, la façon dont l'Occident s'est installé dans le dualisme pendant très longtemps, entre autres à la suite de l'influence de Platon, nous empêche de comprendre la complexité du réel. Et donc, nous distinguons en opposant, alors que les choses ne sont pas si simples et qu'il ne faut pas trop vite être dans le tout ou rien. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le taoïsme. Lorsque nous voyons cette image du Tao, où il y a ce cercle avec un point blanc dans un haricot noir et puis un point noir dans une forme en haricot blanc, qui indique le mouvement de la vie du yin et du yang, avec aussi ce qu'il y a entre les deux. Dynamisme, mouvement perpétuel, complexité, énergie. Voilà une autre approche de la quête spirituelle. Mais pour la tradition judéo-chrétienne, qui d'ailleurs est aussi rejointe par celle du soufisme, c'est-à-dire de la spiritualité de l'islam, nous pénétrons les profondeurs de notre être, non pas pour trouver la vacuité, ou la non-dualité, ou une harmonie d'énergie, mais expérimenter une présence. Et certainement, parmi ceux qui m'écoutent maintenant, il y en a beaucoup qui ont fait l'expérience que quand ils sont aimés ou quand ils aiment, ils sont habités. L'expérience de l'amour, c'est l'expérience d'être habité. Nous pouvons l'expérimenter entre parents et enfants, entre enfants et parents, dans l'amitié, dans l'aventure amoureuse. Et quand on est un être qui vit au niveau des profondeurs, eh bien nous savons que quand nous descendons dans nos profondeurs, nous découvrons une forme de présence. Il y a d'abord, bien sûr, toute cette présence des visages des personnes que nous aimons. Et ce n'est pas aux mamans qui nous écoutent à qui je dois dire qu'elles n'ont pas besoin de penser à leur enfant pour être présente à cet enfant en permanence. C'est toujours assez fabuleux de voir comment les mamans entendent le moindre cri de leur nourrisson, en pleine nuit, à peine perceptible. Découvrir qui nous habite, découvrir que nous ne sommes pas seulement habités par des visages humains, mais par une réalité qui, dans des traditions monothéistes, est une personne. Tout ça, nous avons à l'apprendre, apprendre à nommer cette personne. Alors c'est une démarche qui peut prendre toute la vie. En tout cas, c'est une démarche qui nous dit que l'objectif n'est pas de fusionner avec le cosmos, ni de centrer notre travail à un niveau purement énergétique. Il s'agit d'une relation. Dans la tradition orientale, dans les traditions orientales, l'ego est l'ennemi, d'une certaine façon, de cette harmonisation, ce chemin vers la vacuité, ce chemin vers la dualité. L'ego pris dans son sens péjoratif de celui qui veut se maîtriser lui-même et qui veut dominer, contrôler. C'est d'ailleurs pour ça que je n'emploie pas le mot « ego ». Je préfère parler de « moi profond », de notre personne dans son authenticité. Et ce « moi profond » n'est pas égoïste ni égocentrique. Il est singulier. Il est cette œuvre unique que je suis, cet être unique que je suis. Et donc le chemin qui est proposé ici, chemin spirituel, où nous prenons le corps, l'affectivité, l'esprit, c'est un chemin à la fois de désappropriation, des revendications de notre petit moi, notre petit ego qui en veut toujours plus et qui ramène toujours tout à lui-même, et une vie de relation, un chemin de relation, où un « je » peut rencontrer un « tu » et ainsi vivre l'expérience d'un « nous », sans qu'aucun des deux n'absorbe l'autre. Un chemin privilégié pour atteindre cette expérience, pour la vivre, par rapport à la prise de conscience de notre corps, c'est de faire un certain nombre d'exercices de conscience de soi par rapport à nos sensations. Vous savez, nous sommes en activité, nous sommes souvent projetés en avant vers ce que nous allons devoir faire, et nous sommes très nombreux, et j'en suis aussi, et j'ai chaque fois à réapprendre à vivre autrement. Nous sommes très nombreux à être déjà en esprit dans l'activité qui va suivre. Déjà, le regard sur le réveil ou sur la montre, nous faisons le décompte du temps qui nous reste avant de prendre le train, donner ce coup de téléphone, écrire cette lettre, quitter la maison pour faire une course. Nous avons tellement de mal à être présents à l'instant. Et une façon extraordinaire et remarquablement efficace d'être présent à l'instant, c'est d'être présent à notre corps. Votre corps, vous ne pouvez pas le penser au passé. Il n'est plus ce qu'il était hier. Nous le savons, d'ailleurs la biologie nous le dit, nous changeons continuellement, nos cellules se renouvellent continuellement. Je peux bien sûr essayer d'évoquer un sentiment ou une sensation que j'ai eue il y a quelques jours, mais revivre la chose telle que je l'ai vécue est pratiquement impossible. De même que je ne peux pas vivre mon corps au futur, même si j'anticipe peut-être le bien-être d'aller à la piscine, ou d'aller me promener à l'extérieur, ou d'un repas que j'espère qu'il sera bon. Mon corps, je ne peux le rejoindre que dans le présent. Et c'est en étant attentif à ce corps tel qu'il est que je peux, petit à petit, prendre conscience de mon ici et maintenant. Et quand je fais ce travail de présence à moi à travers mon corps, je verrai l'interaction qu'il y a entre mon corps, mes pensées, mon affectivité et ma vie spirituelle. Par exemple, je vais constater que je ne peux détendre mon corps et entrer dans le silence que si j'arrête ce mouvement perpétuel de mes pensées. De même, je ne peux être présent à moi-même que si je contrôle, ou en tout cas je laisse plutôt partir, je laisse aller les différents sentiments qui me traversent. Sentiments, émotions fortes, émotions de peur, de joie, inquiétude. Ainsi, je constate que pour pouvoir être présent à mon corps maintenant, dans l'instant, il me faut faire un effort pour prendre une distance par rapport à mes idées, par rapport à mes émotions. Mais d'un autre côté, je découvre que lorsque je concentre mon attention sur mon corps, je m'assois d'une certaine façon. Je tâche de prendre conscience de la façon dont mes vêtements reposent sur ma peau, de la position de mon corps sur le siège, mes pieds qui touchent le sol, les contacts que j'ai avec ce qui m'entoure, la fraîcheur de l'air, tout ce que je peux avoir comme sensation, eh bien quand je suis vraiment présent et attentif, je constate que ma respiration se calme, que mes idées s'éloignent, que mes émotions me quittent petit à petit et que dans cet intense moment de présence à moi-même, je peux vivre une sérénité et l'expérience d'être présent à quelqu'un qui m'est présent. Alors je vous encourage à prendre de temps en temps un instant pour vous arrêter et vous immobiliser complètement, les yeux fermés, en parcourant votre corps de la tête aux pieds et des pieds à la tête, en étant attentif à cette sensation de vos vêtements, de votre contact avec le siège, l'endroit où vous êtes, et vous allez constater que ça vous aide à rentrer dans le silence, dans l'immobilité, dans le calme, dans une respiration plus paisible, dans une présence à vous-même, mais qui peut aussi être présent à un autre. Ces exercices, je les détaille dans le petit livre que j'ai écrit, « Retrouver la source intérieure » aux éditions de l'atelier, où chaque fois vous avez des exercices pratiques. Mais nous reviendrons sur cette démarche d'attention au corps et au souffle dans les émissions suivantes.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.